La recherche autrement, une collection de reportages à la découverte des recherches participatives en Bretagne. Les radios associatives adhérentes à la CoreLab vous font découvrir 8 projets soutenus par la région Bretagne dans le cadre des appels à projets Recherche et Société, visant à renforcer le dialogue entre les acteurs de la recherche et la société civile et ayant pour objectif de répondre à des problématiques sociales, culturelles, économiques ou encore environnementales. Entrez dans les coulisses des recherches participatives en Bretagne et appréhendez l'innovation sociale sous toutes ses formes.
Dans une des salles de classe du lycée agricole de Sucigneau à Morlaix, plusieurs personnes s'activent en cette matinée pour installer chaises, vidéoprojecteurs, tableaux blancs et impressions de graphiques et schémas, et pour préparer café et jus de pomme pour accueillir les participantes et participants d'un atelier qui débutera dans quelques heures.
Aujourd'hui, c'est le deuxième atelier du projet Circulab.
Nils Bise, chargé de mission sur les filières animales pour la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne.
Donc, on attend des participants de différents horizons, des élus locaux, des agriculteurs, agricultrices, des acteurs des filières de l'agriculture biologique. Et on va essayer de réunir tout ce monde-là pour travailler ensemble aujourd'hui. En fait, c'est un projet sur... qui traite les questions théoriques du développement de l'agriculture biologique. Et on a aujourd'hui un ensemble de ressources bibliographiques qui travaillent sur l'expansion de l'agriculture biologique et qui expliquent que l'agriculture biologique, elle est limitée dans son développement. Et l'un des aspects qui va limiter son expansion, c'est la disponibilité en nutriments. Alors là, par exemple, pour être très précis sur le projet, on parle de l'azote, notamment. Et donc ça nous a pas mal intéressé parce que dans le réseau de l'agriculture biologique, on travaille au développement de l'agriculture biologique. Donc on essaye de comprendre ces éléments-là, s'il y a des freins et quels sont-ils. Et là, du coup, dans ce projet, on fait ce travail-là de prospection sur le développement de l'agriculture biologique. On se pose les questions de cette disponibilité en nutriments. Mais au lieu de le faire comme ça a été le cas dans d'autres approches, à l'échelle européenne ou mondiale, on le fait à l'échelle locale. Donc on prend un territoire. Alors il y a eu d'autres aspects dans le projet, mais là on est surtout là aujourd'hui pour ça. On prend le territoire et on fait cet exercice de scénarisation de développement de l'agriculture biologique. On se pose la question de la disponibilité en nutriments et on regarde si effectivement avec les leviers que l'on a qui sont adaptés aux spécificités du territoire, si on réussit à contourner cette problématique ou à l'amoindrir, à lever des freins et permettre du coup ce développement, cette prospection. On réunit deux types de compétences là autour de ce projet, Circulab, donc autour de la circularité des nutriments pour le développement de l'agriculture biologique. On a des compétences qui sont des compétences d'un réseau de terrain, donc ça c'est les groupements d'agriculteurs biologiques et du coup la Fédération d'agriculture biologique. Nous, notre métier, c'est celui de l'accompagnement des fermes à aller vers l'agriculture biologique ou à progresser quand on est en agriculture biologique. Donc là, on a vraiment des compétences techniques autour de l'agronomie et des pratiques de l'agriculture biologique. Mais on ne pouvait pas faire cet exercice de prospection seul, dans tous les cas. Et d'ailleurs, ça n'est pas un projet qui est à notre initiative, c'est un projet qui est à l'initiative de INRAE, donc l'Institut National de la Recherche en Agronomie. INRAE, du coup, ils ont des compétences qui viennent vraiment nous compléter sur ce projet, puisqu'ils ont des compétences de modélisation des systèmes. Et là, par exemple, on peut considérer que Morlaix Communauté, notre territoire d'étude, est un système à part entière, et que dans ce système, il y a des flux, il y a des modifications, il y a des transformations, et eux, ils ont ces capacités-là de modélisation qui viennent compléter, nous, notre lecture agronomique du faisable et du pertinent par rapport au développement de l'agriculture biologique d'un point de vue technique.
Yann Evenet, technicien au groupement des agriculteurs biologiques du Finistère, nous propose un état des lieux de l'agriculture bio dans ce département breton.
On a 1100 producteurs qui sont en bio au Finistère sur les 7000 producteurs qu'il y a en tout. Sur les 1100 qui sont en bio, il y a à peu près 200 qui font de la production laitière, 350 à 400 qui font de la production légumière, donc maraîcher diversifié et légumes plein champ. Et après, le reste des productions se répartit entre grandes cultures, élevage de porc, élevage de volailles, élevage de pondeuses, arboriculture, etc. Donc diversité assez grande et nombre de fermes aussi assez important. On a un territoire qui est orienté principalement en production laitière bio et légumes bio. En fait, c'est un territoire propice à la culture de légumes et propice à l'élevage laitier bio aussi. Donc les vaches sont principalement à l'herbe, pâturage. Et hors légumes, c'est du légume plein champ beaucoup, avec aussi un peu de maraîchage diversifié. Le climat est assez doux toute l'année et favorable aux légumes. L'idée de Circula B, c'est d'ouvrir assez largement aux acteurs du territoire, donc aux producteurs avec qui on travaille, entre autres. Donc ça s'est fait principalement par du phoning ou de l'envoi de questionnaires par mail dans un premier temps, puis phoning. Et après, rencontre terrain aussi avec des enquêtes terrain et des participations aux ateliers physiques comme celui qui va se tenir cet après-midi et l'autre qui a eu lieu il y a un mois et demi. Et après, c'est aussi des webinaires qui ont été organisés. Du coup, dans le cadre de Circula B, donc moi j'avais principalement pour mission de travailler sur les questionnaires des producteurs en amont du projet. Donc c'est enquête terrain avec les collègues de l'INRAE dans les fermes et après recensement aussi des pratiques sur la partie gestion en matière organique dans les fermes. Quoi.
La communauté de Morlaix était désireuse en fait de développer son agriculture biologique.
Aurélie Villefard, ingénieure recherche à l'INRAE.
Et était partante pour s'engager dans un projet de recherche et donc a décidé de nous suivre sur ce projet-là. Et c'est vraiment super de pouvoir à la fois mélanger des acteurs de la recherche, des acteurs plus de terrain et puis une communauté de communes qui souhaite s'engager, donc qui derrière peut décider d'axes politiques en fait pour développer plus d'agriculture biologique. Ce qui est vraiment bien, c'est que derrière aussi, on a un support de Morlaix pour pouvoir contacter des acteurs terrain, des agriculteurs et pouvoir faire des ateliers comme on a pu faire la dernière fois ou comme on peut faire aujourd'hui. Moi, j'ai plus une mission d'encadrement dans ce projet puisque nous avons la chance d'avoir eu le financement d'une thèse. Alors, pas dans le projet, mais associé au projet, sur le rôle justement de l'élevage dans le développement de l'agriculture biologique. Donc moi, je suis co-encadrante de cette thèse-là et notre doctorante travaille en fait sur les données de Morlaix Communauté pour cadre applicatif de sa thèse. Je pense que le premier frein, c'est faire sortir la recherche de son laboratoire. C'est vrai que nous, on est souvent dans nos bureaux à faire nos calculs. Donc déjà, pouvoir rencontrer des gens, échanger, établir des connexions, c'était la première appréhension. Est-ce qu'on arrivera à intéresser ? Parce que nous, on se pose des questions et derrière, c'est est-ce qu'on est un peu trop loin des réalités terrain ou pas ? Travailler avec des agriculteurs, c'est pas toujours évident pour nous parce que ils ont des contraintes terrain, ils ont leur propre agenda et faire coïncider les agendas de tout le monde, surtout dans des périodes comme au printemps où il y a quand même beaucoup de travaux agricoles, c'est pas toujours évident. Donc nous, on avait un peu cette appréhension-là, parce qu'on voulait vraiment travailler un peu en dehors du labo, de l'unité de recherche. Et puis finalement, notre collaboration avec la FRAP 35, le GAB, a super bien fonctionné. On a pu recruter un tas de personnes qui ont été intéressées. Parce qu'entre les questions du scientifique et le questionnement terrain, des fois, on n'arrive pas toujours à se rencontrer. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment ce qui fait l'intérêt du projet aussi. Ce n'est pas que des élucubrations, entre guillemets, de scientifiques où il y a vraiment une volonté de travailler ensemble.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle transformation sera induite par le fait de développer l'agriculture biologique sur le territoire. Donc, c'est un exercice théorique. On considère qu'aujourd'hui, la situation initiale, c'est que 10% de la surface agricole est en bio sur le territoire. On fait un exercice, on se projette, on va dire, on va aller jusqu'à 30% d'agriculture biologique sur le territoire. Très bien. Qu'est-ce qu'on a modifié ? Une fois qu'on s'est dit, on est passé d'un temps initial à un temps final, qu'est-ce qu'on a modifié ? Donc ça, c'est pour ça qu'on réunit les acteurs comme aujourd'hui. C'est parce qu'on ne veut pas faire des transformations qui soient complètement incohérentes par rapport aux spécificités du territoire. Donc c'est pour ça qu'on les associe. Eux vont nous donner un ensemble de leviers, d'approches, de réflexions sur des modifications. Est-ce qu'on va développer l'élevage ? Quel type d'élevage ? Est-ce qu'on va réduire l'élevage ? Est-ce qu'on va développer les surfaces en production végétale ? Quel type de surface ? Est-ce que ça va être du maraîchage ? Est-ce que ça va être du sous-abri, du plein champ ? Par rapport à la cohérence du territoire, en fonction de ça, on aura aussi besoin des filières pour valoriser ces ressources. Ces filières, elles vont aussi faire une partie de la transformation, parce que du coup, on va avoir besoin de transformation pour consommer les aliments qui seront produits. Et donc, l'exercice de modélisation, c'est ça. C'est de regarder ce qui rentre dans notre système, donc toutes les sources de nutriments qui rentrent, tout ce qui se passe au niveau du système, donc toutes les transformations. Si je reprends l'exemple de l'azote, c'est comment est-ce qu'il est modifié, comment est-ce que l'azote est transformé, et ensuite qu'est-ce qu'il va devenir. Par exemple, l'azote, il va être présent dans un aliment qu'on va donner au porc, qui va le transformer, qui va le fixer dans sa viande. Cette viande-là, elle va être transformée aussi pour pouvoir en faire un aliment, et cet aliment va être consommé par les gens du territoire. C'est ça un petit peu toute la modélisation qu'il y a derrière. Et après, on n'oublie pas aussi tout ce qui va être des sorties. Donc par exemple, tout ce qui va être excrément des animaux, tout ce qui va être exportation de l'alimentation en dehors du territoire, tous ces aspects-là. Et donc la modélisation, elle se concentre vraiment là-dessus. Ce qui rentre, comment c'est transformé par le système et comment ça ressort du système. Ou au contraire, comment est-ce que ça ressort pour re-rentrer dans le système si on parle de recyclage.
Dans le projet, il y a deux volets. Il y a deux échelles spatiales.
Souhil Archaoui, chargé de recherche à l'INRAE.
Une question qui est importante dans la question de circularité des flux nutriments, c'est de savoir à quelle échelle spatiale on va organiser ces flux. Donc on a décidé de travailler aussi bien à l'échelle des exploitations agricoles et à l'échelle du territoire, sachant que ce sont deux échelles différentes, deux types d'organisation des flux. Pour l'échelle des exploitations agricoles, il y a peu de références en agriculture biologique. Et donc l'idée, c'était vraiment de comprendre comment les agriculteurs et les agricultrices faisaient fonctionner leur système en termes de fertilisation, c'est-à-dire comment ils utilisaient l'azote, par exemple, dans les sols, pour des fermes maraîchères, des fermes de polyculture élevage et des fermes en grande culture. Dans un monde où on tend vers une transition agroécologique, l'agriculture biologique est une voie très intéressante parce qu'elle se détache des autres types d'agriculture en utilisant peu d'intrants, pas d'intrants industriels, pas d'engrais industriels. Et aujourd'hui, une grande partie de l'agriculture fonctionne. En France, on importe plus de 2 millions de tonnes d'engrais azotés industriels. Et donc, dans un monde où il n'y a pas d'intrants industriels, l'agriculture biologique essaye de maximiser l'utilisation de ces ressources naturelles. Et donc l'intérêt de ce projet, c'est de comprendre comment l'agriculteur et l'agricultrice, et il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits, mais on essaie d'ajouter d'autres références, fait circuler ces flux nutriments et l'utilise au mieux pour essayer de produire à la fois des produits végétaux ou des produits animaux, mais également à l'échelle du territoire, on se rend bien compte que s'il n'y a pas d'accès d'engrais industriels qui viennent de l'extérieur du système agricole, il y a un enjeu à bien faire circuler entre exploitations, entre systèmes de transformation, d'utiliser au mieux cet azote ou ces nutriments de manière plus générale. C'est bien l'intérêt d'un projet en recherche participatif. Donc il y a INRAE d'un côté et de l'autre côté le réseau FRAB-GAB. Et donc du côté INRAE, on avait une volonté à essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain. Le réseau GAB-FRAB apporte toute une expertise, une connaissance des agriculteurs. Et du point de vue de son ordinateur, on peut faire des flux d'azote à l'échelle des exploitations, mais ils peuvent être assez loin de la réalité. On peut ne pas comprendre pourquoi l'agriculteur met en place ces flux d'azote. Peut-être qu'il y a d'autres enjeux économiques, d'autres conditions. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir faire ces enquêtes auprès des agriculteurs que nous remercions et agricultrices. Et on a pu aussi avoir une période en fin de l'année dernière où on a restitué ces résultats auprès des agriculteurs. Et donc là, les discussions étaient très intéressantes et on a beaucoup appris en tant que scientifique de ce point de vue-là, parce qu'on voit la réalité du travail des agriculteurs et des enjeux assez importants qui changent d'année en année pour les agriculteurs.
L'enjeu est donc de se comprendre entre les agriculteurs et les chercheurs. Le projet était donc aussi, pour Niels Bies, un exercice de vulgarisation scientifique.
C'est une problématique dont il faut absolument qu'on tienne compte, parce que du coup, on a à la fois un réseau d'experts techniques sur l'agriculture biologique et des acteurs de la science qui ont l'habitude de toute cette approche agronomique. Et la grosse difficulté, ça serait d'avoir un discours qui ne favorise pas justement la compréhension. Expliquer les termes, savoir de quoi on parle précisément, c'est des choses auxquelles il faut qu'on soit attentif. Et c'est ressorti dans le premier atelier, d'ailleurs, puisque du coup, il y avait des élus de la collectivité, il y avait aussi des agents de collectivité qui ont un bagage plus ou moins développé sur tout ce qui est pratiques agronomiques, ou du coup, même de manière générale, sur l'agriculture. Et donc, ça nous a obligés à vulgariser notre discours. Et ça nous a aussi obligés à nous adapter dans les discours qui réunissent ces différents acteurs. Quand un agriculteur ou une agricultrice prend la parole, elle va le faire de manière très pratico-pratique par rapport à des réalités très agricoles, très agronomiques. Et ça, des fois c'est compris, des fois c'est moins bien compris parce que les termes, les langages utilisés sont plus ou moins accessibles. Et donc ça, c'est aussi notre rôle de vulgariser ça pour faire en sorte de perdre personne dans la mécanique de réflexion collective et s'assurer que les enjeux sont compris, les propositions sont bien comprises par toutes et tous et que la scénarisation que l'on sort de cet exercice-là, elle a fait consensus quoi, dans la réflexion.
Le but de mon poste, c'est de pouvoir modéliser particulièrement les budgets d'Azote.
Antoine Boutier, ingénieur recherche à l'INRAE.
Pour que tout ce qui est dit durant ces ateliers, on puisse avoir une idée de ce que ça représente, de pouvoir se projeter ou dans le futur ou dans des scénarios et de pouvoir quantifier un peu tout ça. Donc combien il y a par exemple de fertilisants qui circulent sur le territoire, en quelle quantité et où est-ce qu'il atterrit. Donc il y a une grande partie, c'est la collecte de données. On va auprès des différents instituts quand l'information est disponible ou autrement ailleurs pour faire des estimations, que ce soit des revues scientifiques ou autres, ou des publications d'État ou de revues. Et après, donc oui, ça passe par des tableurs pour faire des calculs, ça passe par des logiciels de codage. Par exemple, dans mon cas, j'utilise Python pour faire des estimations. Et une fois qu'on a ça, on a un modèle qui nous permet de voir où est-ce qu'atterrit le fertilisant, l'azote ou les effluents à chaque moment, par exemple, sur une année, par exemple. Notre méthode scientifique, c'est-à-dire on fait une hypothèse et il faut la tester. Et dans ces ateliers, on a décidé de les tester auprès des acteurs du milieu. Donc on vient avec nos différentes hypothèses et beaucoup de recul sur la situation. Et on va les présenter directement aux acteurs et à un panel d'acteurs divers qui vont nous dire ce que eux, non seulement ils pensent de notre interprétation, mais sur eux aussi, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Car on essaie de présenter aussi des scénarios et des choses qui permettent par exemple d'augmenter l'autonomie, mais ça ne veut pas dire que les acteurs du milieu, ce sont des choses qui sont en mesure ou en désir de faire. Et donc notre méthode aussi, c'est du coup de les mettre à l'épreuve de la réalité du milieu. Il y a un exemple, notamment c'est sur toutes ces questions d'azote qui sont présentes dans les déjections humaines, qui pourraient représenter une quantité de fertilisants potentiels qui sont assez importantes, et avec pas mal d'études qui ont été faites, qui représenteraient quelque chose qui pourrait prétendre à une autonomie tout à fait certaine, mais qui ne sont pas quelque chose qui sont vraiment désirés par les agriculteurs de mobiliser. Ils ne sont pas du tout prêts à manier cette ressource et à tout ce que ça représente. Et donc on a vraiment un conflit entre le potentiel, on va dire, idéal ou scientifique, et la réalité ou des acteurs ou du milieu qui fait que c'est quelque chose qui ne semble vraiment pas compatible, en tout cas dans un futur proche ou moyen. Alors là, c'était des gens qui ont essayé vraiment de quantifier tout ce qui circulait à travers, on va dire, la population française et qu'est-ce que ça représenterait comme azote sortant et du coup utilisable, et qui, si on décidait de mobiliser ou de faire des nouvelles mesures pour le prendre, on pourrait éventuellement le valoriser. Mais avant de vraiment se lancer dans un grand projet comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui est désirable par les acteurs du milieu? Et il se trouve que dans les différents sondages et autres discussions qui ont été faites, pas vraiment le cas. Alors du coup là, on est à un des derniers ateliers qui après se soldera par une restitution. Donc on a commencé à faire un travail sur ce qu'on a eu lors des premiers ateliers, donc toute une gamme de retours et d'avis et de plein d'idées. Et du coup, on a essayé de traduire toutes ces idées en quelque chose de scientifique, en quantifié, en exprimé de manière un peu plus concrète. Et du coup là, c'est présenter toutes ces idées et avoir le retour sur est-ce que notre interprétation sont bien, et aussi pouvoir leur restituer déjà que toutes ces idées qu'ils ont en tête, d'après les scénarios qu'on a pu ainsi créer, voici ce que ça permet d'occasionner, et est-ce que c'est un résultat qui les satisfait, et du coup pouvoir continuer à faire le pas après. Et une fois qu'on aura eu toutes ces données, leur restituer, leur dire voici la vision que vous avez du territoire et voici ce que cette vision peut prétendre, et ainsi pouvoir mener la discussion un peu plus loin, et éventuellement, si ça arrive dans la main d'élus, pouvoir avoir une direction qui peut se concrétiser en se disant si on prend ces mesures, voici ce qu'on peut espérer de ces mesures.
Même si le projet Circula B n'est pas encore terminé, pour Niels Bies, Antoine Boutier et Souhil Archaoui, il est déjà possible de prendre du recul et de dresser un premier bilan sur cette méthodologie de recherche participative, sur ses freins mais aussi ses opportunités.
Alors, on aurait voulu réunir plus d'acteurs parce que plus on réunit d'acteurs et plus on a de points de vue. Et c'était un peu la richesse, l'objectif de cette richesse dans le projet. Donc, on a différents acteurs qui représentent un public assez diversifié. En tout cas, l'objectif est atteint de ce côté-là. Au niveau des freins qui ont été identifiés, Morlaix Communauté, c'est un territoire qui a ses spécificités. C'est un territoire qui a un littoral, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres territoires. Donc, il y a des réalités par rapport à ça. Il y a des contraintes, par exemple, du point de vue de la réglementation. Il y a des choses que l'on peut faire et des choses que l'on ne peut pas faire et qui vont être spécifiques par rapport à ce territoire-là. Il y a de la ressource aussi. On va en discuter un petit peu, mais tout ce qui va être, par exemple, sable coquillé, algues, des choses comme ça, bah, c'est de la ressource qui existe sur ce territoire, pas forcément sur d'autres. Donc, on veut tenir compte de ces spécificités pour réfléchir vraiment... le développement de l'agriculture biologique en prenant en compte tous ces leviers-là qui sont des leviers du territoire. Et après, sur les freins, globalement, il y a des freins qui sont aussi des freins que l'on ne maîtrise pas dans la modélisation, parce que la modélisation, c'est une modélisation sur des aspects agronomiques, scientifiques, mais il y a tout un ensemble de paramètres externes à ces leviers agronomiques, mais qui vont quand même... influer sur le développement de l'agriculture biologique, ça va être les politiques d'incitation vers la bio, les aides publiques qui permettent le développement de l'agriculture biologique, la réglementation du territoire qui va permettre ou non son développement. Et il y a aussi, bien entendu, le contexte du marché et des filières. Il faut que les filières soient présentes, il faut qu'il y ait des débouchés pour que les produits qui sont développés trouvent un débouché, une commercialisation ensuite. Donc c'est un petit peu ça, disons, les éléments qui ont été intégrés à la réflexion et sur lesquels on travaille encore aujourd'hui.
Ce qui est vraiment très intéressant pour moi, c'est l'implication qui est annotée des gens concernés, qui montrent qu'il y a une volonté de vouloir s'impliquer et aller vers une direction et pas une passivité.
Oui, deux choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, c'est l'importance des acteurs du territoire. On n'est pas toujours armé. Moi, je ne viens pas de ces sciences dites sociales. On sent que l'on a besoin. Et on s'aperçoit, contrairement à un monde d'agriculture conventionnelle où les engrais industriels viennent de l'extérieur du système agricole, dans un monde où on doit travailler avec des ressources finies, donc l'azote, on doit le mieux l'utiliser, on s'aperçoit que les relations entre acteurs territoriaux, agricoles, les transformateurs, les fabricants d'aliments, ont besoin de travailler ensemble. Et donc, il y a vraiment un cadre qu'il faudrait améliorer, définir. Donc là, c'est une première brique. On n'est pas les seuls à travailler là-dessus à l'échelle européenne ou à l'échelle du monde. Mais on s'aperçoit que cette vision des ressources, de manière plus générale, là, j'ai parlé d'azote, mais ça pourrait être sur l'eau, ça peut être sur l'énergie, sur la biomasse. On s'aperçoit qu'il y a un intérêt à mettre en évidence ces données, qu'elle soit visible par tous les acteurs et qu'on réfléchisse ensemble, donc à la chaîne de communauté de communes, ça nous paraît bien, ou peut-être à l'échelle d'une région ou un département, comment utiliser cette biomasse ? Parce que l'idée, c'est de faire une transition non seulement agroécologique, donc utiliser moins d'engrais industriels, mais aussi il y a des transitions vers la bioéconomie. Et donc ces cadres qu'on essaie de construire pourront peut-être être une base pour d'autres travaux futurs.
On a une méthodologie et cette méthodologie-là, elle est réplicable. Les résultats de l'étude ne le sont pas en tant que tels, parce qu'ils tiennent compte de toutes les spécificités de Morlaix Communauté, ou du moins c'est notre ambition, et c'est pour ça qu'on a des acteurs du territoire. Donc on ne peut pas dire que ce qui est fait pour Morlaix Communauté est réplicable tel quel pour, je ne sais pas moi, par exemple le territoire de Brest. Mais la méthodologie, l'approche, la mécanique, la co-construction et la modélisation, ça, c'est des choses qui peuvent être mobilisables par ailleurs si on pense à répliquer l'exercice sur d'autres territoires. Alors là, pour l'instant, on est dans un appel à projet, on a un financement qui est dédié, on a dû faire des choix. Au début, on voulait le faire sur deux territoires pilotes, mais du coup, on a dû restreindre un petit peu parce que c'était la réalité aussi de nos capacités avec le budget que l'on avait. Donc, on se concentre sur Morlaix Communauté. On essaye de faire les choses du mieux possible et en pensant effectivement à la réplicabilité du processus. Et après, en termes de valorisation, on a un webinaire de conclusion qui sera ouvert à tous pour présenter un petit peu ce qu'on a fait, toute la méthodologie, comment est-ce qu'on l'a construit et les résultats auxquels on aboutit. Est-ce qu'il y aura des suites au projet ? Oui, j'espère, c'est l'objectif. Mais on ne sait pas encore de quelle forme, ni quand, ni sous quel format.
Ce reportage a été produit et réalisé par la Corlab avec le soutien de la Région Bretagne. Pour plus d'informations sur le projet que vous venez d'entendre et pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur corlab.org.